Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Il y aura le journal des médias évidemment, le journal de la culture. On va découvrir ensuite une juge belge à mourir de rire, pas dans une série comique, mais dans un documentaire, et puis aussi des westerns tellement mauvais qu'ils en deviennent grandioses. Nous sommes ensemble pour une heure et demie en direct, et vous pouvez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média du jour, des insultes, des menaces de mort et de viol sur certains candidats et candidates de Koh-Lanta, au point que la production a porté plainte en justice. Et si le confinement rendait fou, l'animateur Denis Brognard pousse un coup de gueule. Nous parlerons également avec lui de son nouveau bébé. Il lance un podcast d'aventure qui fait vraiment rêver lui. Nos invités ensuite, Marie-Agnès Suquet pour sa longue enquête dans le cadre des soirées Le Monde en Face sur France 5. Titre États-Unis, les sacrifiés de la santé. Comment font pour se soigner les 28 millions d'Américains qui ne sont pas assurés car ils ne sont pas assez riches et qui n'ont pas droit non plus à la sécurité sociale gratuite, car pas assez pauvres. Enfin, le romancier Philippe Génada pour deux nouvelles hilarantes et pour la bonne cause. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ?
Au programme du jour, les félicitations du jury pour les journaux et les magazines, les 12 coups de midi qui font la fortune de leurs candidats, TF1 qui sondent les Français, et pour finir, un seul coup. Le genre de truc qu'on n'a pas vu venir, mais je vous en dis pas plus pour le moment, parce que je suis encore sous le choc.
On commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Encore une grosse performance hier pour TF1, Astérix et Obélix contre César. C'est le tout premier Astérix version cinéma à attirer plus de 6 400 000 téléspectateurs. Loin derrière, la série Meurtre au paradis sur France 2 est pas loin, elle est pas loin des 4 millions de téléspectateurs. Et troisième position pour M6, le film Mon beau-père et moi avec Robert De Niro a été regardé par 1 900 000 personnes. À noter qu'hier soir, Arte, France 3, France 5, W9 et C8 ont dépassé le million de téléspectateurs pour leur prime time, c'est assez rare. Hein. Ouais. Et enfin, à surveiller quand même aujourd'hui les audiences du discours d'Édouard Philippe qui présente le plan de déconfinement du gouvernement. Pour l'occasion, TF1 et France 2 ont décidé de modifier leur grille pour suivre la prise de parole du Premier ministre.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec une série de distinctions pour saluer le travail de la presse écrite.
La CPM, c'est-à-dire l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, a décerné ses traditionnelles étoiles au titre de presse et leurs déclinaisons numériques qui ont le plus fortement augmenté l'an dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Le Monde a fait une razzia, meilleure progression annuelle pour Le Quotidien, meilleure progression annuelle pour l'hebdomadaire M, le magazine du Monde, et meilleure progression pour l'application du Monde dans la catégorie Info Générale. Parmi les autres titres distingués, on retrouve la Tribune de Lyon, Téléloisirs.fr, l'application de l'équipe, Picsou Magazine, non. Ou encore le tout jeune, oui monsieur, Picsou Magazine qui progresse très bien, ou encore le tout jeune Actu.fr qui regroupe plusieurs sites de titres de presse régionale. À noter que l'ACPM récompense également la constance dans le succès, et à ce titre, il distingue le site internet de West France qui, entre 2016 et 2019, a enregistré 698 millions de visites supplémentaires.
Une journée très spéciale hier pour les amateurs du jeu, les 12 coups de midi sur TF1.
Oui, c'est le grand jour, c'était le grand jour pour Eric qui participait hier à sa 159e émission avec l'intention de battre un record.
C'est gagné ! C'est gagné ! Il a fait tomber le record de gueule ! Il passe à 810 244 euros ! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Waouh ! Oh là 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 ! Je voudrais qu'on applaudisse très 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 fort parce que ce record tombe aujourd'hui. C'est le plus grand gagnant de tous les temps de 12 coups de midi. Il passe ce cap historique. Je suis très heureux pour vous.
Il est très heureux, effectivement. Ben oui. 810 244 euros de gains. On l'a entendu, hein, Jean-Luc Reichmann le dire, c'est un record historique. À part une candidate de Qui veut gagner des millions, jamais personne n'avait gagné autant d'argent dans un jeu télé. Une victoire qui a attiré du monde hier devant TF1. 4 600 000 téléspectateurs ont regardé la performance d'Eric. C'est plus de 37% de part d'audience. Une nouvelle évidemment incroyable pour Eric, le candidat. Et une bonne nouvelle aussi pour TF1 qui peut commencer à effacer Christian Quesada de ses tablettes. L'ancien candidat était l'ancien détenteur de ce record. Il a depuis été condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Mais Quesada a encore une petite place dans l'histoire des 12 coups de midi, le record du nombre de participations. Il avait été éliminé après 193 émissions. Pour lui succéder, Eric devra patienter encore. Crise sanitaire oblige, TF1 a dû suspendre le tournage de son émission et La Une va lancer une série de rediffusions à partir de demain. L'occasion de revivre l'épopée de Paul, un autre champion du jeu de la mi-journée, surnommé Wikipol. Cerise sur le gâteau, Jean-Luc Reichmann viendra quand même tous les jours faire coucou à ses fidèles téléspectateurs depuis son lieu de confinement.
TF1 et LCI lancent une nouvelle initiative pour une grande consultation citoyenne.
Notre nouvelle vie, les deux chaînes, s'associent avec Sciences Po et Bluenov, une plateforme de recueil de données, pour prendre le pouls de la population. Le but, savoir comment les gens imaginent le monde de demain, celui évidemment de l'après-crise sanitaire. 3 thèmes sont sur la table, vivre à distance, nos libertés et le monde de demain. Thierry Tullier, le patron de l'info du groupe TF1, nous explique la démarche.
C'est pas simplement imaginer le monde de demain, etc. C'est quel est votre rapport, par exemple, au travail? Est-ce qu'il a évolué? Donc c'est la question, bien entendu, du télétravail qui va être posée. Donc on va pouvoir mesurer comment il l'appréhende. C'est peut-être aussi la question, pour moi, qui est la plus centrale, c'est l'arbitrage entre nos libertés, la préservation de nos libertés, la nécessité de partager davantage de données si on veut freiner ou peut-être interrompre le virus. Donc ça va être très concret, ça va être très très concret.
Cette consultation est le fruit d'une initiative de l'info de TF1 depuis le début du confinement, un nouveau format inséré quotidiennement dans le journal de 20h où des Français filment leur vie bouleversée par la crise sanitaire. Nous avons demandé à Thierry Tullier ce qu'il avait déjà appris en regardant ses reportages embarqués dans la vraie vie.
Ce pays a des ressources incroyables. Et la plus grande des ressources, ce sont les gens, en fait. Et ça peut paraître comme ça, béni-oui-oui, mais ce n'est pas du tout béni-oui-oui. Lorsque je vois le boulanger de Nice travailler, il a dit, nous, on n'est pas des héros, on est simplement des méritants. Des méritants. Et le boulanger, le marin pêcheur qui, tout seul, parce que ses employés ne sont pas là, sort, parce qu'il faut qu'il aille pêcher, il faut qu'il survive, évidemment. Et mais en même temps, parce qu'il pense que son travail est absolument indispensable à l'économie, c'est un pays qui a des ressources. Et ces ressources, elles viennent de la base, en fait. Et je me rends compte à quel point, finalement, d'abord, on ne s'en rend pas toujours bien compte. et qu'ensuite, on passe peut-être à côté de solutions, d'initiatives qui feraient avancer le pays beaucoup plus vite qu'il n'avance aujourd'hui.
Et concernant l'information, qu'est-ce que cette crise aura changé? Un début de réponse avec le patron de l'information, justement, du groupe TF1.
Cette façon de faire va donner de la matière au débat pour LCI, de la matière à des reportages pour TF1. Donc ça vient en plus du travail journalistique que les équipes de TF1 et de LCI font tous les jours. Ça ne se substitue pas, mais ça vient en plus. Et l'une des grandes leçons justement de la consultation médias et citoyens, c'est qu'il y avait une forte, très forte aspiration des Français qui ont participé à cette démarche pour construire, co-construire l'information, être présenté, s'entendre dans nos médias, et je pense que c'est un des moyens de le faire.
Pour participer à cette consultation et donner votre vision de ce monde d'après, ça se passe sur le site notrenouvellevie.fr.
Et puis Cyril, malheureusement, il faut terminer avec une mauvaise nouvelle. Vous avez fait le teasing, vous l'annonciez dans votre sommaire. Le coronavirus aura décidément eu raison de tout, même des plus grandes institutions.
Oui, ça faisait 47 ans que tout se déroulait sans encombre, sans grain de sable, et voilà qu'une pandémie vient perturber une formidable machine, celle des feux de l'amour. Ce virus ne respecte rien. Figurez-vous que la série américaine a épuisé son stock d'épisodes inédits et a commencé hier une série de rediffusions, des rediffusions thématiques. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Un autre monument du soap opéra est lui aussi frappé par la crise sanitaire.
Non, non, là c'est trop Cyril.
Eh ben si, si Philippe, si, il n'y a pas de raison, après 33 saisons et plus de 8300 épisodes diffusés, qu'il neige ou qu'il vente, Amour, Gloire et Beauté doit aussi abandonner ses fans, au moins temporairement. La chaîne CBS a annoncé qu'elle allait, elle aussi, diffuser d'anciens numéros.
Et alors qu'est-ce qui va se passer en France? Que dire aux fans français?
Eh bien, oui, je les entends trépigner, car oui, si ça s'arrête aux États-Unis, est-ce que ça s'arrête aussi en France? J'ai mené une enquête approfondie pour savoir si les fans français devaient se préparer au pire, et la réponse est non. Vous pouvez vous détendre, tout va bien se passer. Côté France 2, qui diffuse Amour et Gloire et Beauté, il y a plus de 300 épisodes d'écart avec la diffusion américaine, ce qui représente plus d'un an de stock.
Ouais.
Et c'est même mieux pour TF1 et Les Feux de l'Amour. Il y a 3 ans d'écart entre ce qui se passe aux États-Unis et l'arrivée du soap en France. Autant dire que les Français, les téléspectateurs français, ne devraient jamais avoir à subir cette insupportable séquence de rediffusion.
Merci beaucoup, Cyril Carrière. Vous nous rassurez vraiment. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média, qui continue évidemment. Dans un instant, notre info média du jour avec Denis Brognard. Le célèbre animateur de Koh-Lanta se lance dans un nouveau challenge, le podcast. Et on évoquera également avec lui les messages de haine dont sont victimes certains candidates et candidats du jeu sur les réseaux sociaux. A tout de suite.
Culture Média, Philippe Vandel.
Vous le voyez toutes les semaines sur TF1 dans Koh-Lanta, peut-être tous les soirs sur Instagram, et vous l'entendrez à partir d'aujourd'hui dans vos oreilles quand vous voulez. Denis Brognard se lance dans le podcast. À partir d'aujourd'hui, l'animateur de TF1 s'entretiendra 2 fois par mois avec des aventuriers, mais pas ceux de Koh-Lanta. Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Philippe.
Question rituelle, comment allez-vous? Où est-ce que vous êtes confiné? J'imagine que vous êtes debout sur un poteau sur l'archipel de Kadavu.
Ah, écoutez, je l'ai quitté hier soir justement pour être avec vous, donc là je suis assis sur ma terrasse, le temps est moins beau dans la région parisienne, mais j'entends, vous voyez, les oiseaux gazouiller, et je profite aussi du silence de cette période-là. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai de la chance puisque je suis confiné dans une maison avec un jardin, et donc j'en profite.
Alors vous savez quoi, juste un tout petit mot, c'est un sondage IFOP, 60% des Français vivent dans une maison avec un jardin, donc en fait vous êtes majoritaire et non pas minoritaire. Avant qu'on parle de votre podcast, Denis, évidemment, l'actualité immédiate ce week-end, vous avez dénoncé sur Twitter la haine dont ont été victimes plusieurs candidats de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux, notamment Ahmad, Régis et Inès, victimes de menaces de mort, de viol et j'en passe, je vous cite, « Je m'associe aux aventuriers de Koh-Lanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect, c'est la moindre des choses. On est évidemment tous ici d'accord avec vous. » Et hier, vous avez même posté une vidéo sur Instagram, extrait.
Vous vous rendez compte? Menacé de mort, de représailles, traité des pires insultes des gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne les avez jamais rencontrés, les candidats de Koh-Lanta. Vous ne les voyez que par le prisme de la télévision. Et donc, vous les menacez juste pour un jeu, juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec leur stratégie. Mais où va-t-on?
Vous êtes en colère. D'habitude, quand il y a des choses comme ça, on essaie de calmer le jeu. Et là, vous êtes en colère. Qu'est-ce qui vous rend à ce point hors de vous, Denis Brognard?
C'est l'évolution sur les réseaux sociaux, parce que des insultes, des mots pas très corrects aux aventuriers de Koh-Lanta en fonction de leurs faits et gestes, ça existe depuis des années. Mmh. Mais là, on a vraiment franchi un cap. Comment peut-on dire à un candidat comme Régis qu'on va violer sa femme et tuer ses enfants? Comment peut-on dire à une Inès que l'on sait exactement où elle habite? La preuve avec une photo. Enfin, on dépasse vraiment l'entendement, et c'est vrai que on l'entend à ma voix, je suis énervé, ça me rend dingue, véritablement, que des gens, et surtout de manière anonyme, c'est ça qui me rend fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, faites l'expérience, pour avoir un compte Instagram, ça vous prend 3 secondes. Vous pouvez vous appeler Popol22, Vandel58, sans donner votre nom, sans rien donner, et vous pouvez dire des insanités à n'importe qui, et en particulier aux personnages publics, entre guillemets, et surtout aux personnages publics un peu plus faibles que les autres, c'est-à-dire ceux qui arrivent dans cet aéropage-là, comme les candidats de Koh-Lanta.
Et qui ne sont pas blindés. Ouais, et ils ne sont pas habitués.
On va entendre. Quand je vois Inès pleurer, quand je vois Régis,
on va l'entendre. Denis, on va entendre Inès. Elle a 25 ans. Elle a été menacée de mort et de viol. On rappelle qu'elle est insultée simplement parce qu'elle a voté contre un autre candidat, alors que c'est le principe du jeu. Elle s'est filmée en pleurs dans l'hôpital où elle travaille. Elle est en plus infirmière, donc en première ligne en ce moment. Tendez l'oreille.
C'est tellement fort, en fait. Me menacer de me faire trop loin. Ça part trop loin. J'ai été faire un jeu. Vous arrivez à avoir une mentalité aussi méchante, enfin, c'est hallucinant, des gens qui me disent qu'ils vont venir chez moi et tout, mais vous êtes... Je comprends pas. Je suis dans une incompréhension, en fait.
Vous l'avez eu récemment au téléphone, Inès ?
Bien sûr, je l'ai eu au téléphone. Il faut imaginer que Inès, en ce moment, effectivement, elle traite des patients atteints du Covid. Elle travaille souvent la nuit. Et quand elle rentre chez elle et qu'elle ouvre Instagram, parce qu'elle est comme beaucoup de jeunes, elle est adepte des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, elle reçoit ce genre de messages. Moi, je comprends et c'est pas possible. Je les ai eus tous, ces candidats, depuis Hamad il y a quelques semaines. Donc, il faut les aider. Et c'est aussi pour ça que la société de production, Adventure Line Production, a décidé de porter l'affaire devant la justice et de menacer. Il faut qu'on retrouve les pires de ces gens-là, les gens les plus abjects. Et puis, sachez qu'ils sont menacés et ils peuvent prendre une peine de prison. Ils peuvent être condamnés à une amende très importante.
Ouais, c'est 3 ans, je vais le dire.
Si à un moment, on fait un cas d'exemple, eh bien, ça peut faire taire les autres et ça peut diminuer, ça peut faire retomber la pression, c'est indispensable.
Je précise que les menaces de mort sont passibles de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. La haine contre certains candidats de Koh-Lanta a toujours existé. Est-ce qu'elle est amplifiée par les réseaux sociaux ou par le confinement ? Est-ce que c'est l'actu, malheureusement, qui veut ça, Denis Brognard ?
J'ai envie de vous dire, Philippe, les deux, mon capitaine. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est un espace de liberté formidable. Moi, je les défends au quotidien. Mais il faut savoir les utiliser et il faut savoir justement se protéger par rapport à ces gens de toute petite vertu. Et puis évidemment, le confinement, quand vous n'avez rien à faire, quand vous êtes dans un appartement, quand vous n'avez que les réseaux sociaux pour, j'ai envie de dire, déverser votre haine et vous défouler, ben ça accentue encore peut-être plus le niveau d'indigence des messages et le niveau d'insultes. C'est pour ça qu'il était important pour la société de production et pour moi-même d'intervenir pour soutenir les candidats et pour essayer de limiter la propagation comme le virus de ces gens qui sont absolument, encore une fois, je le répète, abjects.
Hier, Denis Brognard, dans votre vidéo postée, vous avez fait une proposition au patron de Twitter, de Facebook et d'Instagram. Que demandiez-vous et avez-vous été entendu ?
Alors pour l'instant, j'ai aucune réponse, mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit plus compliqué de pouvoir s'inscrire, qu'on ait une traçabilité, qu'on puisse repérer les gens, qu'il y ait un véritable mail, qu'on puisse, en cas de problème, intervenir au plus vite. Si jamais il y a une plainte qui est déposée par rapport à un message, eh bien que la police puisse intervenir très vite. Et puis je demande aussi autre chose, les candidats de Koh-Lanta, les 3/4, ont un compte Instagram qui est piraté, c'est-à-dire que d'autres prennent exactement le même compte en changeant juste une lettre. On demande notamment à Instagram de pouvoir officialiser les comptes, comme c'est votre cas, Philippe, comme c'est le mien. Et pour l'instant, on refuse notamment aux candidats de Koh-Lanta. Alors, forcément, c'est compliqué. Ils arrivent encore une fois dans un monde médiatique qui leur échappe au départ. Et si on met les insultes plus les gens qui se font passer pour eux, tout ça dans le même sac, ça déstabilise. Et ça déstabilise ceux qui sont le plus touchés. Vous les avez cités, Inès, Régis, Charlotte ou encore Hamad.
On est de tout cœur, évidemment, avec eux. Vous restez avec nous, Denis Brognard, parce qu'on va parler de Koh-Lanta, de la finale et aussi de votre podcast d'aventure. On marque une toute petite pause et on retrouve Denis Brognard.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Brognard, on parlait de son podcast d'aventure, mais d'abord, je voulais clore le sujet Koh-Lanta. Les audiences sont très très bonnes. Je sais que les animateurs, ils ont raison, rechignent un peu à se vanter des bonnes audiences, qu'en période de confinement, c'est un petit peu différent. Mais quand même, 6,5 millions de téléspectateurs, des pics à 7 millions du jamais vu depuis 2013. Donc je vous dis bravo. Les épisodes seront plus coupés, si je suis bien informé, à partir de vendredi prochain. Alors j'explique à nos auditeurs. Jusqu'ici, pour que vous puissiez retarder le plus possible la finale en direct, avoir la chance qu'elle se déroule, une fois le confinement terminé, les épisodes ont été coupés en deux. L'émission raccourcie, donc plus d'élimination, mais ça agaçait beaucoup les téléspectateurs. Ce ne sera plus le cas ce vendredi. C'est bien ça, Denis ?
Alors effectivement, je peux vous donner la bonne nouvelle. Ce vendredi, il y a eu deux décisions qui ont été prises pour l'instant sur 15 jours. C'est-à-dire que vendredi qui vient, épisode complet. Le vendredi d'après, à nouveau épisode complet. Ensuite, on ne sait pas ce qu'on fera. Et c'est vrai qu'on a été obligé, contraint de couper deux épisodes. C'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais effectivement, on rêve d'avoir une finale avec les 20 aventuriers autour de moi, avec évidemment des mesures de précaution, mais on voudrait qu'il y ait tout le monde pour fêter la fin de cette saison qui est absolument formidable, vous le disiez, en audience, avec quasiment plus de 7 millions de téléspectateurs en permanence, chaque vendredi soir, alors, si on compte en plus le replay.
Puisque vous en parlez, quand aura lieu la finale, comment, quelles sont les pistes, même si évidemment je sais que vous n'avez pas de certitude. Vous travaillez hypothèse pour la finale ?
Quand aura lieu la finale, je suis incapable de vous le dire, puisque pour l'instant, on ne sait pas exactement si on va couper ou pas encore d'autres émissions jusqu'à la fin. En tout cas, on va s'éloigner du 11 mai, date du déconfinement, pour avoir la possibilité, je vous le dis, de faire venir, on l'espère, tous les aventuriers à Paris, dans un studio de télévision, avec évidemment plus de distanciation. Je pense que personne ne se sautera dans les bras comme on le fait d'habitude pour fêter le gagnant ou la gagnante. Et puis évidemment, pour l'instant, on est très très prudent par rapport à un éventuel public qui est souvent composé des familles des aventuriers. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de tout faire, de tout organiser, de décaler suffisamment pour qu'on ait les 20 aventuriers et pour qu'on puisse les retrouver et fêter comme ils le méritent cette belle saison d'Île des Héros.
Et j'imagine que vous allez écouter le Premier ministre qui va parler aujourd'hui à 15h sur toutes chaînes et dont TF1, dont vous faites partie évidemment. Autre actualité, Denis Brognard, un podcast que vous lancez aujourd'hui avant que vous nous racontiez le principe de Vie d'Aventure. Bande annonce.
Vie d'aventure, des hommes et des femmes d'exception, des parcours extraordinaires. Ils sont aventuriers, explorateurs, voyageurs, scientifiques, photographes. Ils nous transportent dans leur existence hors normes avec passion. Sur tous les terrains, dans les zones les plus reculées du globe, avec n'importe quel moyen de locomotion, ils nous emmènent en expédition avec eux. Vie d'aventure, des mots pour explorer le monde.
Pourquoi avoir eu envie de vous lancer dans un podcast, Denis Brognard ? Vous n'étiez pas déjà assez occupé ?
Ça fait des années que j'ai envie de proposer une série d'entretiens avec ceux que j'admire le plus sur cette basse terre, à savoir les aventuriers. Pour la petite histoire, je l'avais proposé notamment à des radios, notamment à Europe 1, mais je n'avais pas le temps de le faire. Je n'avais pas le temps en hebdomadaire de pouvoir faire ça. Alors là, avec le confinement, j'ai laissé libre cours à mon imagination et j'ai proposé ça à TF1, qui a été très favorable tout de suite, et je leur ai donné une liste de noms d'aventuriers qui me font rêver. Et j'ai commencé, vous voyez, j'ai déjà réalisé l'entretien avec Bertrand Piccard, qui est l'aventurier ultime pour moi, qui est peut-être le plus grand explorateur vivant aujourd'hui, qui sera mon premier invité. Ouais. Thomas Coville, qui a battu le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, qui a été battu depuis, mais qui est un aventurier, un philosophe de l'aventure incroyable. Il y aura également Philippe Croizon, vous savez, celui qui a traversé la Manche, qui a relié les 5 continents à la nage, sans bras et sans jambes. Il y aura aussi des femmes, Elisabeth Revol, l'himalayiste, l'alpiniste, qui a plusieurs 8000 à son compte, et vous vous souvenez qu'il avait défrayé, entre guillemets, un peu la chronique en redescendant sans, malheureusement, son coéquipier polonais, qui lui était resté mort d'épuisement au sommet du Nanga Parbat. Enfin voilà, il y aura des tas d'aventuriers plus ou moins connus. Mais quand je parle d'aventure, Philippe, il y a aussi les aventuriers de la vie. Il y aura par exemple une pilote de Rafale, il y aura un commandant de sous-marin. Enfin, des gens qui ont une vie extraordinaire et qui, à travers les mots, sont capables de nous faire pénétrer dans leur univers.
Où est-ce qu'on pourra l'écouter, votre podcast ? C'est un produit TF1 ou est-ce qu'il va être diffusé sur les plateformes habituelles de podcast, Deezer, Spotify, Apple et autres ?
Exactement, vous avez tout compris, c'est-à-dire que c'est effectivement un produit, c'est un des podcasts, parce qu'il y en aura d'autres qui vont être lancés au même moment par TF1, là dans les jours qui viennent.
Donc c'est un produit TF1, mais qu'on trouvera partout.
Exactement, c'est un produit TF1, produit par TF1, et voilà, moi je me régale.
Ah non, j'ai oublié la question la plus importante pour finir, c'est gratuit ou c'est payant ?
C'est gratuit.
Merci beaucoup, Denis Brognard. Merci. Votre podcast Vie d'aventure en ligne à partir d'aujourd'hui. Bertrand Piccard, premier invité. Et le nouvel épisode non coupé de Koh-Lanta en entier, ce sera vendredi. Merci d'avoir été avec nous, Denis.
Merci, Philippe.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Marie-Agnès Suquet, réalisatrice du documentaire États-Unis, les sacrifiés de la santé. Des patients témoignent de leurs difficultés à se faire soigner dans le premier pays du monde. C'est poignant. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manerino. Et puis on recevra l'écrivain Philippe Jenada qui vient de publier 2 nouvelles pour 2 collectifs, 13 à table et des mots par la fenêtre. Nos indispensables, on va vous recommander le pire des westerns. Ce sera avec Mathieu Charrier. Et puis Ni juge ni soumise, le quotidien d'une juge d'instruction hors norme filmé pendant 3 ans. Ce sera avec Louise Bernard.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h donc avec Marie-Agnès Suquet, réalisatrice du documentaire États-Unis, les sacrifiés de la santé, à voir ce soir sur France 5. Il y aura ensuite le journal de la culture d'Hélène Manerino et puis nous recevrons l'écrivain Philippe Jenada. Nos indispensables, les westerns limite à voir ou à revoir et un documentaire hilarant qui nous plonge dans le quotidien d'une juge d'instruction belge.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Marie-Agnès Suquet.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Vous signez un documentaire, je l'ai dit, qui passe ce soir dans le cadre des fameuses soirées Le Monde en Face sur France 5. Votre titre, États-Unis, les sacrifiés de la santé. Je vais commencer par ce chiffre monumental. Le système de santé américain, faut-il le rappeler, première puissance économique mondiale, coûte 3500 milliards de dollars par an, l'un des plus chers du monde. C'est plus que le PIB français. Et pourtant, les résultats de leur système de santé sont très mauvais. Espérance de vie, mortalité, ils sont loin d'être en tête.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs cette première information qui nous a donné envie de nous plonger en fait sur la question du système de santé américain. C'est que l'année dernière, pour la troisième année consécutive, les États-Unis ont encore perdu en espérance de vie. Donc c'est l'un des pays industrialisés, vous l'avez dit, l'un des pays les plus puissants au monde. Et pourtant, leurs habitants, leurs citoyens, ces habitants, ces citoyens sont en train de mourir de plus en plus jeunes. 78,6 en moyenne contre 80,4 pour les pays de l'OCDE. Donc c'est quand même important.
Les pays de l'OCDE, c'est les pays industrialisés. La première scène est très très forte. Ça se passe au milieu de la nuit. Des hommes, des femmes, des enfants qui dorment dans leur voiture et qui chuchotent. Et au petit matin, ils font la queue. Tout ça pourquoi ?
Pour avoir des droits à des soins de santé gratuits. Ouais. C'est c'est une association qui s'appelle RAM qui propose ces cliniques mobiles gratuites. Donc elles se dispersent au fur et à mesure de l'année dans les coins les plus reculés des États-Unis où il manque énormément d'établissements hospitaliers et de praticiens, mais aussi de plus en plus dans les villes. Mmh. Et en fait, ces gens-là qui n'ont pas les moyens en fait d'aller chez le médecin ou d'aller à l'hôpital, d'aller chez le dentiste ou de se payer des lunettes, font parfois des centaines de kilomètres, dorment 24 heures avant, voire 48 heures avant parfois dans leur voiture, pour être sûr de dégoter un ticket qui leur permettra de voir un médecin. La plupart viennent pour voir des ophtalmologistes et repartir avec une paire de lunettes gratuites ou pour se faire soigner les dents parce qu'il y a un vrai problème de santé dentaire aux États-Unis.
Alors votre documentaire parle d'un point aveugle du système de santé américain. Aujourd'hui, il y a 28 millions d'Américains qui ne sont pas assurés. Contrairement à la France, il n'y a pas de sécurité sociale automatique. Les seuls à bénéficier d'un système de santé public qui existe sont les plus modestes et les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors, je vais schématiser. Ces 28 millions d'Américains n'ont pas d'assurance santé car ils ne sont pas assez riches pour en prendre une privée et ils n'ont pas non plus droit à la sécurité sociale gratuite car ils ne sont pas assez pauvres. Votre premier témoin, c'est une jeune femme de 30 ans. Elle s'appelle Karine. Elle est diabétique. On l'écoute.
Un taux de sucre normal, ça tourne généralement autour de 100. Là, le mien est à 405. C'est extrêmement élevé. L'unique moyen de le faire redescendre, c'est de prendre de l'insuline. C'est comme l'eau ou comme l'air pour moi. C'est une question de vie ou de mort. Sans insuline, je mourrais au bout de quelques jours. Ça ne prendrait pas longtemps.
Karine a 30 ans et vit avec son diabète depuis ses 12 ans. Son traitement, qui en France serait pris en charge à 100%, coûte très cher aux États-Unis.
Quand je vais à la pharmacie, ils me demandent $1000 pour de l'insuline. Alors je ne la prends pas. La solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est de me rationner. C'est très dangereux pour ma santé. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de faire ça.
Est-ce que c'est un cas rare, extrême, ou est-ce que ce cas est représentatif de la situation en Amérique ?
Ah non, c'est un cas qui est absolument courant et c'est ça qui est terrible. Il y a une vraie crise pour les diabétiques aux États-Unis. L'insuline est devenue hors de prix. Pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, le prix de l'insuline a été multiplié par 3. Ouais. L'un des médicaments que Karine utilise comme une insuline qui est produit par le géant pharmaceutique Eli Lilly. Aujourd'hui, on va dire ce qu'on appelle une boîte en gros d'insuline qui peut durer pour certains une dizaine de jours, pour d'autres un mois en fonction de leurs besoins, elle coûte $275. Ouais. En 1996, elle coûtait $21.
Attends, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans votre documentaire. Vous donnez ce chiffre. Le traitement annuel de l'insuline aux États-Unis, c'est $2700 par an. Ça fait $225 par mois. C'est toujours trop. Mais le salaire moyen aux États-Unis, c'est $4180 par mois. C'est le double en France. J'arrive pas à comprendre pourquoi, avec un salaire moyen aussi élevé, on n'arrive pas à s'acheter de l'insuline.
Parce qu'en fait, il n'y a pas seulement l'insuline à acheter. La plupart des diabétiques, ils ont une assurance santé. Donc, ils payent tous les mois ce qu'on appelle des premiums, un forfait mensuel qui est très élevé. Karine, par exemple, son forfait mensuel coûte 700 dollars. Et pourtant, elle n'est pas couverte pour son insuline. Et puis, il y a l'insuline qu'il faut payer. Et puis, il y a aussi toutes les équipements à côté, les petites bandes pour tester son taux de sucre. Une boîte de 50 lui coûte, de 50 petites bandelettes lui coûte 50 dollars. Elle en a pour 1200 dollars de bandelettes par
an. J'ai bien compris. Mais ce qui est très frappant dans votre sujet, c'est qu'aux États-Unis, les salaires sont deux fois plus élevés qu'en Europe. Et justement, en Europe, est inclus dans le faible salaire le fait qu'on soit protégé. Vous comprenez ma question?
Oui, tout à fait. Mais c'est encore une fois, c'est une moyenne. Karine, par exemple, elle est freelance, elle écrit des papiers pour des blogs. Elle vit en Géorgie, dans un état où qui est pas extrêmement riche, dans une petite ville assez rurale. Son mari Eric, il fait du marketing pour une entreprise qui vend des caravanes. Ils n'ont pas du tout un salaire mirobolant, et surtout la moitié de leurs revenus passe dans l'assurance santé.
Et alors, ce qu'il faut raconter aussi, c'est qu'en face, il y a l'organisation du système de santé américain. Vous avez fait parler un ancien cadre d'une compagnie d'assurance. Maintenant, il est révolté et ce qu'il dit est terrible.
À l'époque, mon travail, pour moi comme pour tous mes collègues d'ailleurs, c'était d'atteindre un objectif, rendre nos actionnaires encore plus riches. Les actionnaires sont les gens qui comptent le plus dans ces entreprises. Ce ne sont pas les patients. Dans mon domaine, refuser de payer le traitement d'une personne, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez le pouvoir de déterminer qui peut vivre et qui meurt. Pour moi, c'est se rendre coupable de meurtre.
Et ce qui est complètement dingue et que j'ai découvert en voyant votre documentaire, c'est qu'en 1945, quand le président Truman veut lancer un système de sécurité sociale comme ce qui s'est fait en Europe et en France, c'est l'association des médecins américains qui s'y est opposée. Et là, récemment, la sécurité sociale pour tous faisait partie du programme d'Obama, qui a été élu pour la première fois en 2008. En 2010, l'Obamacare est signé. 23 millions de citoyens supplémentaires sont désormais assurés. Et alors, selon la nouvelle loi, chaque citoyen doit avoir maintenant une assurance médicale sous peine d'amende. Or, vous donnez le nombre de morts, 43 000, pour cause de citoyens non assurés. On ne comprend rien, la loi n'est pas appliquée. Ou alors, pour quelles raisons ne sont-ils pas assurés alors que c'est désormais dans la loi ?
Parce que l'amende était assez minime, c'est-à-dire qu'on est sur autour de 1000 dollars pour un citoyen qui n'est pas assuré. Et surtout que depuis que Donald Trump a été élu, il a tout mis en œuvre en fait pour annuler l'Obamacare. Il est contre l'Obamacare depuis le début, il a fait campagne contre ça, et donc il a vidé de sa substance l'obligation pour tout Américain de s'assurer. C'est-à-dire qu'il a réduit cette taxe à zéro. On voit que depuis qu'il a fait il a passé cette loi, le nombre de non-assurés aux États-Unis augmente. Dans les non-assurés, il y a aussi tous les sans-papiers. Il y a aussi toutes les personnes qui, par leur travail, n'ont pas accès à une assurance santé, puisqu'il faut savoir qu'un Américain sur deux a une assurance santé via son travail. Donc, ces 45 000 personnes qui meurent chaque année, c'est par manque d'accès aux soins. C'est tout un système qui est conçu comme ça. C'est un système qui est privé et vraiment dont le but ultime, comme le dit Wendell Potter, que vous avez mis à l'antenne, c'est de faire du profit et du profit. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit sur l'association des médecins américains qui s'est opposée déjà en 1945 à la santé universelle pour tous. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que le gouvernement puisse limiter leurs tarifs.
D'accord. On va continuer à parler avec vous parce qu'il y a un système que j'ai découvert, je suis tombé de ma chaise, c'est le système des codes, il y a même des codeurs dans les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est ? Vous nous racontez ça juste après une pause. Marie-Agnès Suquet sur Europe 1.
Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Marie-Agnès Suquet qui signe un documentaire passionnant qui passe ce soir sur France 5. États-Unis, les sacrifiés de la santé sont les gens qui ne sont pas assurés, soit parce qu'ils ne sont pas assez riches, je schématise, pour prendre une assurance privée, soit parce qu'ils ne sont pas assez pauvres, parce que les très pauvres ont droit, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté aux États-Unis ont droit à la sécu, mais eux ne sont pas assez pauvres pour y avoir droit. On va parler de l'hôpital et du système de l'hôpital américain. C'est absolument glaçant. Il y a des témoignages aussi très poignants dans votre documentaire. documentaire, un témoignage qu'on va entendre, c'est une maman qui a perdu sa fille, qui avait d'abord un caillot de sang dans la jambe. Sa fille va aux urgences, elle quitte les urgences et ensuite elle retourne dans un autre hôpital, ou sinon le même, parce qu'elle a fait une embolie pulmonaire. Et c'est la maman qui raconte.
Je la tenais dans mes bras, contre moi, comme quand elle était bébé. Et je lui ai chanté la chanson que je lui chantais enfant. Je savais qu'ils allaient éteindre la machine et je les ai suppliés. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Et quand la machine a fait son bruit continu, là, la réalité m'a rattrapée. Ma fille était morte. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas d'assurance.
Non, mais là, on n'y croit même pas. Il coupe la machine vraiment devant la mère et il tue la fille devant elle.
Non, non, c'est pas. Ils ont pas tué la fille. Ils l'ont fait tout en avec l'accord d'Emmy. Si vous voulez, elle était dans un état végétatif et Emmy a décidé de donner ses organes pour sauver la vie d'un autre enfant.
D'accord.
Voilà.
J'ai appris comment ça se passait dans les hôpitaux, je le racontais tout à l'heure un peu, pour gagner de l'argent, pour que les hôpitaux gagnent encore plus d'argent, parce que les hôpitaux sont privés là-bas, ils sont gérés comme des entreprises, il y a le système des codes, au point même que les hôpitaux engagent des codeurs. Qu'est-ce que c'est ?
Alors oui, ça c'est assez complexe, j'ai essayé de faire simple. Si vous voulez, à l'hôpital, aux États-Unis, chaque service a un coût. Le fait d'avoir une échographie, le fait d'avoir une chambre, tout a un coût. Et donc, chaque service a un code.
Ouais.
C'est-à-dire que si vous y allez pour une appendicite, vous allez avoir un code qui sera envoyé du coup à votre assurance privée et qui stipulera le prix que ça coûte.
D'accord.
Pour maximiser leurs profits, les hôpitaux engagent ce qu'on appelle des codeurs, donc des gens qui vont être spécialisés, maîtres de ces codes, il y en a des milliers, pour essayer d'optimiser les profits en ce qu'on appelle en upcodant, c'est-à-dire en surcodant. On va vous dire, comme on l'explique dans le documentaire, vous avez une appendicite, vous avez donc un code, et ben ils vont ajouter un code à la facture en disant que vous avez eu des complications,
ouais,
qu'il a fallu faire intervenir l'anesthésiste,
ouais,
un réanimateur, pour que le prix soit plus cher, la facture plus élevée, et que donc l'assureur rembourse plus d'argent à l'hôpital.
Et ce qu'on voit dans votre documentaire qui est absolument dingue, c'est qu'au lieu qu'il y ait écrit sur votre feuille anesthésie, appendicite, complications, surtension, il y a écrit B28-34-52, 53-28-4, on ne sait pas ce que c'est. Et les patients ne savent pas ce que c'est. Et je voudrais juste faire une petite remarque. Il y a TF1 qui vient de lancer une nouvelle série médicale qui s'appelle The Resident. Et c'est justement de cet enjeu de la financiarisation de l'hôpital dont parle en sous-texte cette série médicale. Et puis, vous dénoncez aussi le business des labos pharmaceutiques. Là, c'est complètement dingue, je ne savais pas. Chaque labo, contrairement à la France, peut vendre un médicament au prix qu'il souhaite. Donc, ils font monter les prix. Mais là, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre doc. Si un médicament est facturé deux ou trois fois trop cher, pourquoi il n'y a pas une marque sur le marché qui fait le même médicament en faisant baisser le prix ? Comme le prix des PC, qui ne cesse de baisser, le prix des téléviseurs, le prix des voitures, la concurrence fait baisser les prix. Pourquoi ça ne marche pas dans le cas des médicaments ?
Eh bien, je vous explique, c'est parce qu'en fait, il y a un monopole des brevets. C'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les médicaments multiplient continuellement les brevets pour conserver le monopole de production du médicament. Ils vont changer un rien du tout dans la formule qui, techniquement, ne va pas changer l'effet du médicament, mais qui leur permet de présenter un nouveau brevet devant la FDA, donc l'agence fédérale qui contrôle
Food and
les
Drug
médicaments.
Administration.
Exactement. Et du coup, si vous voulez, ça leur permet de prolonger leur brevet et leur monopole sur la production d'un médicament. Si vous prenez l'exemple de l'insuline, par exemple, il y a trois laboratoires pharmaceutiques qui produisent ce médicament à 90% sur le marché américain. Sanofi, Eli Lilly et Novo Nordisk.
Mmh.
Et on voit aussi, quand on compare l'augmentation des prix au fur et à mesure des années, qu'ils ont exactement les mêmes augmentations de prix au même moment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire jouer la concurrence,
ils montent tous ensemble.
Prix fantôme.
Et voilà. Juste un mot, Sanofi, je me trompe ou c'est français ?
Tout à fait.
C'est français. Et ils en profitent quand même aux États-Unis. Merci beaucoup, Marie-Agnès Suquet. Je rappelle, États-Unis, les sacrifiés de la santé, documentaire signé par vous ce soir dans le cadre des soirées
Gary Grabby,
Le Monde en
très
face
important.
Sur France 5. Merci de l'avoir cité également. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.